Alors, de ce point de vue, la perception qu'en a le professionnel, le banquier, la nature des changements, comment il les vit et comment éventuellement ça affecte, je dirais, ses métiers.
Oui, alors moi, bonjour. Moi, je vais doublement vous désespérer. D'abord parce que je vais vous donner mon regard à moi, j'allais dire, en tant que citoyen et non pas en tant que banquier. Mais ce qui va me permettre de parler en mon nom propre. Et puis alors, la deuxième raison, c'est surtout que je ne vais pas répondre à la question qui est posée. Mais vous allez voir, pour la raison suivante, d'ailleurs, je vais rebondir sur ce que vient de dire Édouard Vieillefond, parce que la question, c'est la finance va-t-elle vraiment changer ? Moi, il me semble que, si vous voulez, il n'y a pas que la finance qui doit changer. Bon. Ce que je veux dire par là, c'est que on est confronté à une crise qui est sans précédent. On a démarré par le texte de Steinbeck, qui est évidemment un très beau texte, avec un parallèle avec la crise de 1929 qui est très juste. Mais on est sur une crise très profonde qui a des dimensions multiples. Dit autrement, elle a évidemment une dimension financière sur laquelle je vais revenir, mais elle a aussi une dimension politique, elle a une dimension idéologique, elle a une dimension morale. Et si on veut éviter qu'une nouvelle crise se produise, et si on veut repartir vite, au sens rebondir vite, en termes de croissance, d'efficacité économique et de justice sociale, il faut bien embrasser l'ensemble du champ et traiter l'ensemble des sujets. Alors évidemment, la première dimension de la crise, c'est la crise financière et la responsabilité, je vais battre ma coulpe une seconde, des banquiers. C'est une responsabilité qui a été longtemps débattue, développée, commentée, c'est pas la peine, j'allais dire, de la décrire trop longtemps, si ce n'est pour dire que cette responsabilité des banquiers, au fond, elle s'exprime simplement. Les banquiers ont oublié au cours des 10, 15, 20 dernières années le cœur du métier qui est leur, qui est d'apprécier le risque, d'évaluer le risque. Hein, le cœur du métier de banquier, c'est de prêter en évaluant le risque qui est en face et de demander une rémunération, le taux d'intérêt, qui est fonction de ce risque. Or, des techniques financières ont été multipliées par ces banquiers depuis 10-15 ans, comme la titrisation, comme les CDS, qui leur ont permis de prêter sans risque, et au fond d'être totalement déresponsabilisés aux risques qu'ils prenaient, et ce faisant d'accumuler des risques qui ont fini par se transformer en pertes. Donc moi, si je devais résumer à la hache là, la responsabilité des banquiers et cette dimension financière, je dirais au fond c'est ça d'abord, l'oubli du métier d'évaluation du risque et la multiplication des techniques pour échapper au risque et le recéder, le refiler à d'autres, un peu comme le mistigris. Bon, ayant dit cela, très important, la deuxième dimension de la crise. Il y a une responsabilité éminente des pouvoirs publics dans cette crise, que les pouvoirs publics soient américains ou européens. Pourquoi ? Parce que les politiques monétaires, notamment, sous le regard attentif de la Banque de France, mais pour lancer le débat, mais menées notamment aux États-Unis, c'est comme ça que je vais m'en sortir, par Greenspan, sur les 10-15 dernières années, ont consisté, hein, de manière très simple, encore, à injecter massivement des liquidités dans l'économie, à très bas prix, c'est-à-dire à bas taux d'intérêt, avec un objectif simple, que moi je vais décrire en termes politiques, qui est au fond de masquer, de compenser la faiblesse de la croissance réelle de nos économies, notamment de l'économie américaine, en favorisant un surcroît d'endettement. Si vous voulez, c'est exactement comme un sportif qui est fatigué à la veille d'une compétition, donc deux économies un peu, vous voyez, vieillissantes, fatiguées, qui se dopent pour améliorer sa performance le lendemain. Et bien là, la dope, le dopage, la drogue en l'occurrence, c'était l'endettement. Et il y a eu, alors on peut en discuter, mais à mon sens, une politique délibérée aux États-Unis comme en Europe de booster la croissance et de masquer la progression des inégalités de revenus comme de patrimoine par l'endettement et par un surcroît d'endettement. Il y a donc là, à mon sens, une responsabilité de premier rang des pouvoirs publics. On pourrait également parler de la responsabilité des pouvoirs publics dans l'édiction des normes ou non sur les 10 ou 15 dernières années, parce qu'il y a des pans entiers, comme a dit d'ailleurs Édouard Vieillefond, qui sont restés en dehors du contrôle du régulateur, volontairement ou non. On pourrait également parler d'ailleurs de la responsabilité des pouvoirs publics lorsqu'il y avait des normes dans le contrôle du respect de ces normes. L'exemple le plus extraordinaire, c'est quand même Madoff aux États-Unis, qui est passé à travers tous les contrôles de la SEC. Donc ça, c'est ce que j'appelle la responsabilité politique. Il y a une troisième forme de responsabilité après la responsabilité des banquiers, ou après la dimension financière, la dimension politique, qui est la dimension idéologique, qui va nous permettre de revenir une seconde sur la finance. vous voulez, la crise, et cette crise, c'est d'abord et avant tout la faillite de l'autorégulation.
Ah, oui.
C'est la faillite de l'idée selon laquelle il existe quelque part une main invisible qui, comme ça, corrige les anomalies du marché et permet un fonctionnement harmonieux des marchés. On y a tellement cru d'ailleurs qu'on a laissé des opérateurs pendant des années prospérer seuls et sans contrôle. L'exemple type, c'était les hedge funds, parce qu'on pensait que les hedge funds, ça corrigeait ou ça permettait de corriger comme ça, de manière extraordinaire, parce qu'ils étaient plus intelligents que les autres probablement, les anomalies du marché. Bon, et bien la réalité a montré que non, et la réalité a montré une chose simple, c'est que lorsqu'on laisse les marchés s'auto-réguler, ils ne s'auto-disciplinent pas, ils s'auto-détruisent. C'est aussi simple que ça. Il y a donc un besoin urgent, majeur, impérieux de régulation sur lequel je vais revenir. Mais il y a donc là bien, si vous voulez, une faillite idéologique. C'est l'idée selon laquelle il n'y a pas besoin de réguler un marché parce qu'au fond, les marchés fonctionnent de manière harmonieuse, est une idée erronée et fausse. La dernière dimension, c'est ce que j'appelle la dimension morale. C'est, si vous voulez, je sens que je vais réagir à droite, mais c'est très bien, c'est l'importance prise par l'argent dans nos sociétés au cours, là encore, des 20 dernières années. Alors, l'illustration la plus pure, on l'a trouvée au cinéma, avec le règne de, avec le film Wall Street, que vous avez peut-être vu, si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir, et le trader Gordon Gekko, qui a pour credo, quoi, pour slogan, greed is good, n'est-ce pas ? La cupidité, c'est une bonne chose. Alors évidemment, cette cupidité-là, on l'a retrouvée partout, pas seulement dans les banques d'ailleurs. Les bonus, les modalités de fixation des rémunérations, le caractère totalement déraisonnable de ces modalités et des montants, ça en est une illustration. Enfin, vous avez d'autres illustrations de la part des investisseurs ou des actionnaires, que ces actionnaires soient grands ou petits actionnaires. C'est l'idée selon laquelle on peut demander des rendements du capital de 15, 20, 25% annuel, alors que la croissance réelle est de 2 à 3% est une idée absurde, totalement absurde, et qui relevait, là encore, de ce mythe de l'argent fou. Une autre illustration pour moi, c'est ce que j'appelle, si vous voulez, l'urgence, c'est-à-dire le fait d'être en permanence dans l'urgence, qui est une des données très générales de nos sociétés, hein, mais qui fait qu'il faut tout de suite produire du rendement, du profit, essayer de maximiser les choses, de pressurer, etc. Une des illustrations, c'est les comptes trimestriels, par exemple. Est-ce que ça a un sens de demander à une entreprise de publier tous les 3 mois, tous les 6 mois, ses comptes, alors que, évidemment, son action s'inscrit dans le long terme. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis juste que ça pose des questions sur le rapport au temps. Je dis tout ça pourquoi ? Simplement, d'une part pour lancer le débat, mais d'autre part pour dire qu'évidemment il faut que la finance change, mais il n'y a pas que la finance qui doit changer. Je dis ça pour nos amis régulateurs, il faut qu'eux-mêmes s'interrogent sur la façon dont ils voient, certes, les marchés financiers, mais la façon dont ils interviennent dans l'économie, et c'est vrai également pour les pouvoirs publics. Ça, c'est la première remarque que moi je voulais faire. La deuxième remarque, toujours pour ne pas répondre à la question, je dis ça en plaisantant parce qu'au fond, je pense être au cœur du sujet, que les réponses nationales ne suffiront pas. C'est-à-dire, la finance va-t-elle vraiment changer ? On entend des régulateurs nationaux dire oui, et ils ont raison, on a mis en place des réglementations nationales, etc. Sauf que, là encore, les choses sont assez simples, et comme disait l'autre, les faits sont têtus. Vous avez une crise globale, qui est d'ailleurs en fait la première crise véritablement de la globalisation, de la mondialisation. Pourquoi ? Parce que le marché est global. Bien, la réponse, elle ne peut qu'être globale. Au fond, la crise à laquelle on est confronté, c'est non pas la dernière crise du XXe siècle, mais enfin la première crise du XXIe siècle. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas su bien l'anticiper, ou même pas du tout d'ailleurs, mais une fois qu'elle est apparue avec l'explosion de la bulle des subprimes à l'été 2007, pourquoi est-ce qu'on n'a pas bien su, même là, mesurer ce qui allait se passer ? Pour une raison simple, c'est qu'on a complètement sous-estimé la vitesse de propagation des chocs, la rapidité de la contagion, parce qu'on a sous-estimé l'importance de l'interconnexion entre les économies. Je vais le dire autrement, on est désormais dans un monde clos et fini, où les effets domino se propagent très rapidement. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Mais qu'il faut une autorité des autorités. S'il n'y a pas cette autorité des autorités, s'il n'y a pas une régulation véritablement mondiale ou une gouvernance véritablement mondiale, on pourra réglementer dans tel ou tel pays, ça ne servira à rien ou pas grand-chose, parce qu'il y aura toujours la possibilité de s'évader, au sens de l'évasion fiscale. Un mot sur le G20, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Le G20, évidemment que c'est une très bonne chose. D'ailleurs, non pas, je vais y revenir, pour ce qu'il dit ou pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Le G20, c'est la traduction du fait que le monde est en train de changer. C'est-à-dire qu'il n'est plus dirigé par les 7 ou 8 plus grandes, qui se pensaient d'ailleurs plus grandes économies mondiales, mais par 20 pays qui représentent ensemble 80%, pour faire simple, de la population et de la richesse mondiale. Donc en soi, c'est une très bonne chose que les États-Unis ne dirigent plus seuls et que l'Europe et les États-Unis avec le Japon ne dirigent plus seuls. La seule chose, c'est à quoi il sert ce G20 ? Je dis, il a le mérite d'exister, c'est formidable. Mais au-delà de ça, moi, je ne suis pas convaincu de ce qu'il fait. On assiste à quoi ? Soit des déclarations d'intention. Alors, c'est toujours très bien de dire que les banquiers, c'est pas bien, d'ailleurs. Ça permet, au fond, de céder une seconde à la tentation du bouc émissaire et puis de ne pas se poser les questions politiques que parfois il faut se poser. C'est très bien de dire les paradis fiscaux, c'est pas bien. Évidemment que je le partage, évidemment qu'il faut les faire exploser la dynamite, parce que c'est les lieux de tous les trafics. Enfin, lorsqu'on cherche à faire une liste des paradis fiscaux, je ne sais pas très bien, je n'ai pas bien suivi, mais enfin, au début, je crois qu'il y avait 4 ou 5 pays sur la liste, puis ensuite, après débat, il n'en restait plus aucun. Donc c'est génial, en fait, on est déjà dans un monde où il n'y a plus de paradis fiscaux. Quoi.
Bon. Ah non, il y a pas
pourquoi
courant,
parce que, voilà, non, bien, non, la non, nécessité de composer, etc. Non, et au-delà de ça, le G20, c'est une enceinte, là encore, qui a le mérite d'exister. Oui, oui, ne vous inquiétez pas, je m'arrête très vite.
Ah, parce que moi, j'aurais plus rien à dire.
Non, je vous promets, je m'arrête très vite, mais je continue quand même une seconde. Mais le G20, il ne traite pas des grands sujets d'aujourd'hui. Les grands sujets d'aujourd'hui, je vous promets, je m'arrête, c'est ce qu'on appelle les biens publics mondiaux, c'est-à-dire, au fond, les sujets qui ne peuvent pas être traités par les seules autorités nationales ou par les seuls pays pris isolément. Le climat, par exemple. Mais surtout, le protectionnisme, on va y revenir sûrement, et la politique monétaire. Et autant la crise, bien sûr, elle a été provoquée par une déraison microéconomique, mais aussi par des dysfonctionnements macroéconomiques. Bon, je vous promets, je fais un troisième et dernier point, je m'arrête pour dire que il n'y a pas que la finance.
Toujours plus les banquiers.
Non, je ne suis pas que banquier, ça peut nous échapper, mais c'est pour ça que je parle comme ça. Il n'y a pas que la finance qui doit changer. On ne pourra pas régler les sujets dans un cadre national. Et enfin, réglementer ne suffira pas. Évidemment, il faut réglementer. Il faut sortir du mythe comme ça de l'autorégulation, mais il faut aussi réguler par des politiques beaucoup plus pertinentes. Je m'arrête.
Bien. Il y a déjà un débat qui est ouvert. Je vais laisser à Catherine Lubolinski de donner le point de vue donc, du chercheur, mais également du citoyen, du consommateur, de l'épargnant.
Me voilà avec beaucoup de casquettes.
Mais vous en avez beaucoup.
Oui, mais c'est vrai qu'après ces trois interventions assez complètes, il ne reste pas grand-chose à rajouter. Alors, moi, je vais répondre de façon très très simple à la question « La finance va-t-elle changer ?» Ma réponse est non, non et non. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Quand vous écoutez le très joli texte qui a été lu tout à l'heure, vous voyez bien que la banque, il faut qu'elle fasse des profits quoi qu'il arrive et quelles que soient les conséquences humaines que ça peut comporter. Et pourquoi ? Parce que dans notre société, toute entreprise, dont les banques, maximise leurs profits sous contrainte de coûts. Les banques ne sont pas des entreprises philanthropiques. Alors, c'est vrai, Monsieur Pigas, vous avez raison d'aborder les problèmes de morale et d'idéologie. Ils sont très importants. Vous venez de rentrer chez Lazare, c'est bien. Quel sera votre bonus cette année ?
Ça fait de longues années que je suis chez Lazare.
Quel a été votre dernier bonus ?
Et typiquement, la question qui n'a pas de sens, je vais vous dire pourquoi. Les règles françaises en la matière, non mais si vous voulez, le bouc émissaire, le fait de montrer du doigt, etc.
Non, je ne montre pas du doigt, c'est vous qui avez...
Quel intérêt ? Je vais répondre à ce point-là. Les règles françaises et les règles qui ont été énoncées par le G20 en matière de rémunération sont au nombre de 3. La première, c'est que les bonus, le versement des bonus soit étalé dans le temps.
Non, Monsieur Pigas, ma question n'était pas quelle va être la réforme des bonus, c'est quel a été votre dernier bonus, c'est tout.
La deuxième, c'est que les bonus soient versés en actions, c'est le cas chez nous. La troisième, c'est pour les opérateurs financiers qu'il y ait un système de bonus-malus, c'est-à-dire qu'effectivement on puisse tenir compte du fait que les opérations financières puissent produire des pertes dans le futur. C'est pas notre cas, on ne fait pas d'opérations de marché. Je tiens juste à vous dire, mais ça n'a pas dû vous échapper, si vous êtes une observatrice attentive, que nous, un, n'avons pas bénéficié d'intervention de l'État, deux, on ne fait pas d'opération de marché.
Mais vous n'avez pas répondu à ma question, mais c'est pas grave.
Non, mais je peux. Si vous voulez, je peux vous demander votre ami.
Moi, j'ai pas de bonus. Hein. Non, à la fac, il n'y a pas de bonus.
On va laisser Madame Lubouchard.
Pourtant, je fais quand même mon métier. Oui. Bien. Alors, revenons-en au fond du problème. La finance va-t-elle changer? Non, ça suffit, Monsieur Pigas. Merci. La finance va-t-elle changer? La réponse est non.
Non, mais c'est pas grave.
Un chiffre? Ah non, il ne veut pas.
Bon, écoutez, on va pas personnaliser le débat, on est là pour réfléchir.
Non, mais ceci dit, je vais répondre. Je vais pas répondre sur le montant, ça n'a pour moi à nouveau aucun sens. Preuve du contraire, je vais répondre de rien. Mais je vais quand même vous répondre la chose suivante. Moi, j'ai effectivement gagné de l'argent. J'ai un engagement politique et social qui est connu, qui n'a pas dû vous échapper. Engagement politique, il est connu, je dis des choses. Quant à mon engagement social, l'argent que j'ai gagné, mais si vous ne m'écoutez pas, je désespérerai, je l'ai investi dans une entreprise, puisque j'ai acheté, moi, je suis devenu propriétaire d'une entreprise de 80 salariés, qui s'appelle les Inrecuptibles. Et l'ensemble de mon patrimoine, de ma fortune et de mes revenus sont placés dans cette entreprise, c'est-à-dire dans quelque chose qui paraît utilement social. Socialement utile. Beau lapsus d'ailleurs.
C'est vrai que la musique adoucit les mœurs. Bien. Alors, quand on revient. Pas celle-là, non. Quand on revient au fondement de la finance, c'est vrai, comme vous l'avez souligné, que la finance doit être au service de l'économie réelle. Et là, la finance peut se décliner sous deux modes, soit sous le mode financement bancaire de l'économie, soit sous le mode financement de marché. Alors, pour une fois, tous les économistes sont à peu près d'accord, à savoir que la répartition entre l'activité de crédit bancaire ou l'activité de marché n'a pas vraiment d'influence sur la croissance de l'économie et sur le soutien qu'elle peut apporter à l'économie réelle. C'est pas ça qui est important, banque ou marché, c'est le fait qu'elle soit efficace. Ok, donc ça, c'est au moins un problème sur lequel on s'accorde. Alors, heureusement, parce que le poids de la finance a explosé au cours de ces 30 dernières années. Et c'est vraiment la césure, c'est au tournant des années 80 que tout a changé en termes de marché. C'est-à-dire que les marchés ont vraiment pris une place très importante. Alors, il faut savoir que quand vous additionnez les réserves des banques centrales, les dettes, les actions et les actifs des banques commerciales uniquement, vous arrivez fin 2007 à un stock de créances de titres financiers qui représente 420% du PIB mondial. Donc c'est pour ça qu'on peut parler d'une certaine déconnexion de la finance par rapport à l'activité économique. Alors, est-ce que la crise a beaucoup changé les choses? On n'a pas encore tous les chiffres. Si vous les voulez, vous regardez dans le rapport sur la stabilité financière du FMI. C'est lui qui fait ces études-là. Fin 2008, ce chiffre avait légèrement baissé puisqu'il était un peu en dessous de 400%. Mais vous voyez qu'on est dans un ratio quand même extrêmement élevé sur les actifs financiers. Et là, je n'ai pas encore parlé des produits dérivés. Il faut savoir que les produits dérivés, ça représente à peu près 12 fois le PIB mondial, à eux seuls. Ah. Alors, quand on sait que les produits dérivés ne sont pas des produits de financement, mais des produits de gestion des risques, on peut être surpris qu'il faille tant de produits dérivés pour gérer les risques par rapport à des risques qui sont finalement beaucoup plus faibles. Alors, pour changer, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est vrai qu'il faut d'abord changer la régulation du système financier national et international. Ça, je pense que mes voisins en ont beaucoup parlé. Le point vraiment important, c'est que les autorités se sont enfin aperçues qu'il fallait une surveillance macro-prudentielle du fait de l'interconnexion accrue des institutions financières entre elles. Donc on a compris que ça ne suffisait pas de veiller à ce qu'une entreprise toute seule soit saine, mais qu'il fallait regarder le tout dans son ensemble, puisque une pomme pouvait dénaturer tout le sac de pommes. Mais là, évidemment, on se heurte à tous les problèmes de coopération internationale classique. Quand vous regardez les discours sur la place financière de Paris, vous voyez par exemple les autorités françaises qui disent comment défendre la place financière de Paris, il faut s'armer, il faut faire de Paris une place financière. Et si chaque pays fait la même chose, ça veut dire que les pays sont en concurrence pour attirer la finance dans leur pays, et donc que la coopération devient très dure puisqu'on demande à des concurrents de coopérer entre eux. Ça, on l'oublie souvent. Et alors, on voit cette tension, en général, il y a un clivage entre pays anglo-saxons et Europe continentale, mais ce clivage entre les pays qui veulent avoir leur propre place financière est important parce que cette concurrence aboutit à un moins-disant réglementaire. Et donc, la régulation, on la veut, la plus légère possible, avec, si vous voulez, les pays anglo-saxons qui l'ont emporté dans leur philosophie de market discipline, hein, d'auto-régulation. On sait s'auto-réguler nous-mêmes. Non, merci, on n'a pas besoin de vous. On a vu ce que ça avait donné. Alors, il faut donc une vision macro prudentielle et, je crois que c'est Sylvie qui avait beaucoup insisté là-dessus, il faut effectivement réguler l'ensemble des acteurs financiers. N'oubliez pas que la moitié des acteurs financiers aux États-Unis n'étaient pas régulés du tout. Et ça, ça concerne les filiales qui avaient été créées par les institutions financières, de telle sorte qu'elles ne soient pas, ces filiales ne soient pas prises en compte dans le calcul, dans leur périmètre d'activité, et donc qui échappaient totalement à la régulation. Et en termes d'échapper totalement à la régulation, vous avez eu effectivement beaucoup de ces filiales, ou de, par exemple, on parle des hedge funds, mais c'est un épiphénomène, qui sont domiciliés dans, alors on ne dit pas les paradis fiscaux, parce que c'est un aspect que fiscal. On parle des territoires non coopératifs, parce que c'est, ce qui est important, c'est l'information diffusée par ces territoires et la régulation qu'elles appliquent. Ces territoires n'appliquent pas de régulation, quasiment pas, ou bien il y a une opacité totale dans les informations. On ne peut pas savoir ce qui se passe dans ces pays-là. Alors, ce n'est pas un problème de liste. Ce n'est pas un problème de liste de pays. Pourquoi ? Parce que dans le même temps où les États-Unis menaçaient de tout la banque UBS pour dévoiler le nom des clients, le même jour, le Connecticut, qu'un État américain, votait le secret bancaire pour cet État. Le Delaware, quand vous prenez les classements des paradis fiscaux par les ONG, qui n'ont pas d'enjeu personnel, vous apercevez que le Delaware fait partie des plus grands paradis fiscaux. Ils sont à l'intérieur même des États-Unis. Et ça pose un problème de crédibilité dans les discours avancés par ce pays, alors que dans ce même pays, vous avez des territoires, des États fédéraux qui sont des États non coopératifs. Le deuxième point, et là, M. Pigas a tout à fait raison, il faut changer les comportements. Bon, alors, mais changer les comportements, c'est difficile quand on vit dans un système où l'objectif est de maximiser son profit sous contrainte de coût. Et c'est d'autant plus difficile qu'avec des marchés actions, vous avez des contraintes de rentabilité. Donc, si vous avez deux institutions bancaires en concurrence, c'est normal que l'une cherche à faire plus de profit que l'autre. C'est la stimulation de la concurrence. Par ailleurs, ces institutions financières, il faut bien qu'elles aient des actionnaires. Comment on fait pour avoir des actionnaires ? On s'arrange pour faire monter le cours en bourse et pour avoir un return en equity, comme ils disent, c'est-à-dire un rendement sur fonds propres extrêmement élevé. Donc c'est la course au rendement sur fonds propres à court terme. Et comment est-ce qu'on arrive à faire des rendements sur fonds propres de 15, 20 ou 25% ? Bah, écoutez, c'est quand même quelque part les clients des banques qui payent, c'est-à-dire vous et moi, hein, c'est pas, l'argent tombe pas du ciel, ça c'est dans l'activité d'intermédiation classique ou de gestion des OPCVM, et puis dans les activités de marché, c'est les opérations de trading, mais je reviendrai tout à l'heure, ce qu'on appelle en français avec une connotation très péjorative, la spéculation. Mais on en a besoin, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, ce qui est vrai, c'est qu'il faut redéfinir le rôle des banques qui sont devenues des entreprises de services liées au marché de capitaux, qui ont effectivement oublié leur modèle de fonctionnement initial qui était de la transformation bancaire, financement de l'économie par crédit bancaire. Donc, on distribue un crédit et on conserve au bilan et on assume le risque, pour changer totalement de, pour utiliser un vocabulaire à la mode en ce moment, de modèle, c'est-à-dire qu'on est passé à un business model différent. Le business originate to distribute, c'est-à-dire on accorde un crédit et puis on refile le mistigri, comme vous dites, ou la patate chaude à quelqu'un, en l'habillant évidemment d'une façon, en faisant un beau paquet cadeau, c'est-à-dire en offrant un rendement un petit peu plus élevé qu'on, par rapport à ceux qu'on peut facilement trouver, étant donné les politiques monétaires qui ont été menées et qui n'avaient plus de rendement sur les titres classiques, et donc il y avait une recherche de rendement par les épargnants. Je veux dire, je suis sûr que parmi vous, vous avez tous investi dans, enfin, un peu d'économie, j'espère, un peu dans les OPCVM. Quel est votre critère de sélection de l'OPCVM? C'est quelle performance il a fait, et pas quelle performance il a fait depuis 10 ans par rapport au taux sans risque. Non, par rapport aux voisins. Est-ce que certains d'entre vous regardent la persistance des performances? Non, on regarde, bon, l'année d'avant, quoi. Et donc, il faut changer le comportement, certes, des acteurs de la finance, comme les banques, mais il faut également changer le comportement des épargnants eux-mêmes, et on ne résoudra pas, très simplement, ce qu'on peut appeler de façon caricaturale la dictature de court terme des marchés actions, où, pour trouver des investisseurs, il faut leur proposer des rendements très élevés en action. Quand vous achetez une action et que, enfin, vous achetez une action, vous voulez que son cours grimpe et que vous ayez un fort rendement. Ça commence par vous. Hein, par moi. Enfin, non, j'ai pas d'argent. Mais par vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est presque inné dans notre société d'avoir un tel comportement. Et c'est donc paradoxal de vouloir demander aux banques d'arrêter de chercher à faire beaucoup de profits. Alors, je ne sais pas si je... Je m'arrête là et qu'on...
On va peut-être revenir après, effectivement.
On reviendra après, d'accord.
Oui, donc on a déjà d'ailleurs un peu abordé le deuxième temps, c'est-à-dire on a un peu entré dans les limites un peu de l'exercice des modifications qui ont eu lieu, qui existent, c'est une première chose, mais qui effectivement montre qu'il y a encore des marges, je dirais, de progression. Alors il y a eu, Mme Libouchinski tout à l'heure a asséné une vérité, non, ça ne va pas changer. Alors j'aimerais bien que nos intervenants, peut-être en lui redonnant tout de suite la main sur cette question-là, pourquoi fondamentalement rien ne changera selon vous, puisque c'est un peu la thématique de notre table ronde.
Bon, alors je reprends la parole, alors ça c'est bien, je vais pouvoir la garder autant que je veux. Alors reprenons quelques points en particulier, je vais essayer de prendre quelques domaines où c'est assez caricatural.
5 minutes.
Oui, de coiffeur. Quelques domaines où c'est assez caricatural. Par exemple, si on parle des autorités de régulation et de supervision. Ce qui est très important, c'est qu'il faut qu'ils s'attellent à la supervision macroprudentielle, mais aussi évidemment à superviser les banques et... Il faut qu'ils s'intéressent aux innovations de produits financiers. Bon. En finance, l'imagination règne, c'est très créatif la finance, c'est passionnant pour ça, juste titre. Mais est-ce qu'on peut demander aux autorités de réguler produit par produit? C'est impossible, il y a des milliers de produits différents. Et les autorités ne peuvent pas réguler produit par produit. Puis en plus, les autorités s'intéressent à un produit une fois qu'il s'est bien diffusé, parce que, bah, parce qu'elles ont d'autres préoccupations, qu'elles ne peuvent pas réguler de façon microéconomique tout le temps. Donc, je crois qu'il est impossible d'imaginer que les autorités puissent tout réguler, tout superviser. Alors, il faudra, à mon avis, le seul moyen de réguler les excès de la finance, parce que c'est de ça dont il faut parler, c'est, de façon globale, réguler l'effet de levier. L'effet de levier, c'est-à-dire, avec 100 de fonds propres, combien d'activités je peux avoir? 1000, 2000, 3000. Okay, schématiquement, c'est ça. Je pense que si les autorités s'intéressent uniquement à l'effet de levier, ça pourrait marcher pour beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne cherchez pas automatiquement à réduire l'activité des établissements, mais vous cherchez à renforcer leurs fonds propres. D'ailleurs, on veut renforcer les fonds propres pour des raisons de solidité, comme Mme Matera l'a souligné, mais ça aurait d'autres effets. Parce que si vous diminuez l'effet de levier, vous diminuez automatiquement la rentabilité. C'est pour ça que les banques rechignent tant à augmenter les fonds propres. Ils disaient, on en a assez, ça y est, on est très solide. Et écoutez les économistes de banque, c'est ce qu'ils vous disent. Non, non, on est très solide, on a 8%, on a 9%. C'est pas 8 ou 9 dont je parle, c'est 8 ou 20. Et quand vous diminuez la profitabilité, donc quand vous diminuez l'effet de levier, vous diminuez le taux de rendement sur fonds propres, mécaniquement. Et si vous diminuez donc cette profitabilité, automatiquement il y en aura moins à redistribuer en tant que bonus aux traders. Tout s'enchaîne, c'est pas la peine d'essayer de réguler chaque petit truc individuellement, on n'y arrivera pas. Donc, et ça permettrait également de diminuer la spéculation. Alors ça, c'est le deuxième point sur lequel je veux parler. En français, toujours connotation péjorative de tout temps.
Une minute si on veut donner...
Pas de souci. La spéculation. Bon, d'ailleurs, les Français ne disent pas qu'ils sont spéculateurs dans une banque, ils sont traders, ça fait beaucoup plus chic. Alors, une des solutions qui a été avancée, c'est pour... Alors, la spéculation d'abord. Est-ce que c'est vraiment mauvais? Non. Même Tobin, dont on reparle beaucoup de nos jours avec sa fameuse taxe Tobin sur les opérations de spéculation, même lui, dans un article de 1994, donc assez récent, avait bien souligné que la contrepartie de tout marché liquide et efficace, c'est d'avoir de la spéculation. Sans spéculation, vous n'avez pas de liquidité de marché. Sans liquidité, vous n'avez pas de marché tout court. Donc la spéculation est nécessaire et elle est indispensable parce que ce sont des agents qui vont prendre du risque et qui vont permettre à ceux qui sont averses au risque de leur transférer. Donc la spéculation est nécessaire. Maintenant, est-ce que la spéculation elle est nécessaire au point tel que ça représente parfois 90% des transactions sur les produits dérivés? Évidemment que non. On est tous d'accord, c'est trop. Oui, alors répondez-moi, parce que moi j'ai pas la réponse, c'est quelle est la dose de spéculation qu'on peut accepter? C'est toute une histoire de proportion qui peut être, encore une fois, régulée par l'effet de levier.
Merci. Alors, du point de vue régulateur, que nous dit l'AMF? Pourquoi, éventuellement, les choses ne changeront pas à partir des décisions, des nouvelles règles qui ont été instituées, ou au contraire, y a-t-il des lueurs d'espoir?
Alors, pour répondre à un certain nombre de questions ou de débats qui ont été lancés, je crois qu'il y a un propos liminaire à faire en introduction. C'est quel est l'objectif? L'objectif, c'est d'abord que la finance en général et les marchés en particulier servent donc à financer l'économie réelle, les acteurs de l'économie réelle, avec un risque mesuré, avec un risque acceptable. Plus on veut être efficace et plus on veut financer l'économie, et plus on veut de la croissance, plus on va prendre des risques. Donc toute la question est de savoir à quel niveau on met le risque, et on voit bien que s'il n'y a pas d'accord sur cette question fondamentale, c'est une question idéologique et politique. Pourquoi ? Parce que dans les différentes zones du monde aujourd'hui, l'aversion au risque des différents peuples, des différentes zones du monde n'est pas la même. Et de ce point de vue-là, l'Union européenne, l'Europe, elle se situe quelque part entre les États-Unis et le Japon. Et pourquoi nous avons nous-mêmes, de par la régulation qu'ont mis en place les pouvoirs publics, des systèmes de régulation qui sont plus importants et qui sont plus fins et donc qui ont été plus efficaces pendant la crise que d'autres dans les pays anglo-saxons et notamment aux États-Unis, tout simplement parce que la philosophie, l'idéologie n'est pas la même. Donc on en revient, et je suis entièrement d'accord sur ce point-là, des questions fondamentales. Ce qui veut dire, c'est simple, pour ne pas avoir de risque et pour ne pas tomber, il suffit de pas avancer. Pour ne pas avoir d'accident de voiture, il suffit de ne pas conduire de voiture. Là, c'est pareil. La finance mondiale et le système capitaliste tel qu'il a été créé, notamment avec le développement des marchés, il est assez naturellement procyclique, donc on sait qu'on aura des cycles. Et la question qui se pose, c'est de savoir comment éviter que ces cycles ne deviennent trop importants, comment éviter le crash et faire en sorte que dans les bons moments, on accepte d'avoir un peu moins de croissance, on accepte d'avoir un peu moins de résultats, on accepte d'avoir une économie qui va un peu moins vite pour que 10 ans plus tard ou 5 ans plus tard, ça ne soit pas la grande catastrophe. Mais des crises, il y en aura toujours. Ce qui compte, c'est qu'il y en ait moins et qu'elles soient moins fortes, et que si possible, ces crises soient simplement réduites à des mouvements de cycle. Mais quelqu'un qui vous dirait « nous supprimerons les risques et nous supprimerons les crises parce que nous sommes en train de faire en ce moment », c'est tout simplement impossible. Donc il faut rappeler cet objectif. Alors ensuite, sur notre capacité à surveiller et à mettre en œuvre. Et là, je veux insister sur deux points. Premièrement, est-ce que tout ce qui a l'air d'être fait, d'une part au niveau des régulations qui ne seraient pas suivies, ou au niveau des grands discours du G20, est-ce que tout ça est totalement vain et inutile? Alors je pense que non. Et je vais prendre l'exemple du G20. Quand je disais que le G20 a changé de nature, je le pense sincèrement pour une raison simple, c'est que le G20 qui a été créé en 1999, c'était un G20 ministériel qui venait s'ajouter au G7 des ministres des Finances et des gouverneurs de banques centrales. Quand un organisme comme ça, non seulement s'élargit, et c'est vrai, il s'élargit, ça devient un G20, il y a les grands pays émergents, mais qu'il remonte au niveau des chefs d'État et que ceux qui signent le communiqué, comme ça a été le cas par deux ou trois fois maintenant, sont des chefs d'État, donc M. Sarkozy, M. Obama, etc., etc. Je peux vous dire que dans le monde réel, ça a une portée immense, parce que le jour, alors après ça prend du temps dans la mise en œuvre, mais parce que le jour où un pays ne remplit pas ses obligations, ça peut remonter médiatiquement assez rapidement. Et c'est très différent d'assumer, quand on est un État au niveau des pouvoirs publics, d'assumer quelque chose qui est au niveau des ministres des Finances et d'assumer quelque chose qui a été signé, l'encre à peine sèche, par des chefs d'État. Ça, je pense que c'est un changement extrêmement important. Deuxièmement, pour accompagner ça par cette gouvernance chapeau en haut du système, ce qui est extrêmement important, vous savez que c'est un thème qui est très à la mode et c'est un travail essentiel du Conseil de stabilité financière, c'est le suivi de la mise en œuvre. On se met tous d'accord pour tomber sur des règles. Au niveau des organes internationaux, on dit voilà les grands principes. Après, on les décline dans nos législations, dans nos réglementations, dans les différentes zones mondiales, aux États-Unis, en Europe. Si on s'arrête là, ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est de mettre un système de suivi et de vérification qui marche et qui crée de la pression avec des sanctions derrière. Et éventuellement, la première des sanctions étant évidemment médiatique. Or, aujourd'hui, de tels exercices existent au FMI, à la Banque mondiale, et un des rôles centraux du Conseil de stabilité financière, ça sera de vérifier que ce qui a été, entre guillemets, voté, ce qui a été approuvé, sera bien mis en œuvre. Alors, non seulement pour les centres offshore qui sont en dehors, je dirais, du G20, mais y compris pour que les membres du G20 fassent ce qu'ils ont dit. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Deuxième aspect sur le suivi et la surveillance, et là, je suis pas tout à fait d'accord sur un point, c'est sur la surveillance des produits dérivés. C'est vrai que c'est d'une complexité. Ça veut dire, j'en suis à mon deuxième point sur 8, donc je vais aller plus vite que prévu. Il est vrai que les dérivés, c'est très compliqué. Aujourd'hui, c'est 700 000 milliards de dollars, hein, le notionnel des produits dérivés. Mais ça ne veut pas dire que par segment de produits dérivés, dérivés de taux, dérivés de crédit, etc., on n'arrive pas à avoir une information suffisante au niveau mondial et par grande zone sur les risques systémiques que font peser ces produits. On n'essaie pas d'avoir le détail de tout, ça c'est très clair, mais qu'en revanche on soit capable de capter du côté marché les produits dérivés et les risques systémiques qu'ils font peser sur le monde, ça, c'est quelque chose qui est faisable. Il y a déjà un début de régulation qui est mis en place de ce point de vue, et il y a également des régulations qui vont exister. Par exemple, il y aura l'obligation dans la réglementation européenne d'avoir ce qu'on appelle des chambres d'information, des registres de transactions qui permettent de suivre les... Voilà, ça existe aux États-Unis, il y en a une qui existe, on attend d'en avoir en Europe, on espère en avoir rapidement, qui permettent de suivre. Est-ce que je peux en dire une dernière?
Alors, on va faire une concession. Voilà. Mais on aura l'occasion à l'occasion des questions de revenir aussi sur des compléments d'informations que vous pourrez que nos intervenants pourront donner.
Juste, alors la dernière sur... On arrive à un sujet fondamental qui est l'utilité sociale de la finance. Est-ce que les produits dérivés sont utiles? Oui. Est-ce que l'innovation financière est utile? Oui. Est-ce que l'innovation technique est utile? Oui. Est-ce que la titrisation est utile? Oui, oui, oui. Ce contre quoi nous devons lutter, ce sont les excès. Il y a un moment... où l'innovation dans la finance, où les nouveaux produits n'ont plus d'utilité, voire ont une utilité négative pour le monde dans son ensemble. Et c'est ça qu'il faut arriver à détecter. Aujourd'hui, nous n'avons pas les outils pour le faire. Ce qui s'est passé avec les subprimes et les CDS, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est un excès. Mais comme on dit souvent, pour conclure, et je m'arrête là, il ne faut pas jeter le bébé de l'innovation technique ou de l'innovation financière avec l'eau certes un peu sale, avec l'eau du bain, qui effectivement sont les excès associés à ces éléments. Merci.
Merci, Barbier Fond. Alors, Sylvie Matera.
Oui, de manière assez convergente d'ailleurs, pour répondre à votre question, est-ce que tout ça est de nature à changer la donne? Je crois que oui. Mais en revanche, est-ce que c'est de nature à éviter une nouvelle crise? Je crois que non. Donc, alors pourquoi tout ça? De nature à changer la donne, deux raisons essentiellement. Parce que tout d'abord, on travaille maintenant dans un cadre international. Et je crois que c'est vraiment ça qui a changé. Mathieu Pigas a dit qu'il fallait des règles internationales. Je n'ai pas précisé dans mon intervention dans le cadre de la première partie, mais rien de ce que j'ai mentionné n'est national. C'était tellement évident que je n'ai pas pris la peine de le mentionner, parce que pour nous, c'est évident. Ça fait des années déjà, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, que plus rien, mais plus rien dans ces domaines n'est décidé au niveau national. Ça n'aurait évidemment aucun sens. Donc je ne l'ai pas précisé parce que ça me semblait tellement évident, mais c'est vrai que tout est international. Donc ça, c'est quelque chose qui est de nature à effectivement changer la donne. Je vais prendre deux exemples. Un des exemples qui était lié à celui qui avait été aussi rappelé par Mathieu Pigaz, la politique monétaire. Bon, c'est vrai, je ne reviendrai pas sur les politiques monétaires accommodantes et l'impact que ça a pu avoir sur la création de bulles. Mais aujourd'hui, un des points majeurs qui a été discuté pas plus tard que le week-end dernier à Saint-Andrews et qui est rediscuté fréquemment dans toutes les instances internationales, c'est ce qu'on appelle nos exit stratégies. Les exit stratégies pour une banque centrale, ça consiste à dire à partir de quand on va arrêter les politiques monétaires accommodantes, à partir de quand on va arrêter ce qu'on appelle les politiques non conventionnelles, l'achat de produits qui sont naturellement pas d'ordinaire achetés par les banques centrales, et tout ça on en discute ensemble. Donc aujourd'hui ça a vraiment changé, même un domaine qui est vraiment le cœur des banques centrales et sur lequel on a vraiment viscéralement un peu de mal à échanger, mais néanmoins aujourd'hui nos exit stratégies on en discute ensemble pour avoir une sortie coordonnée de crise. Ça ne veut pas dire qu'on va tous sortir au même moment, parce qu'autrement on créerait une nouvelle crise, mais ça veut dire qu'on en discute. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et puis par ailleurs, dans ce cadre international, on se partage les tâches. On a un des points très importants qui a été discuté le week-end dernier à Saint-Andrews, c'est un dérivé de la taxe Tobin, dire comment faire en sorte que s'il y a une crise, ce ne soit pas les contribuables qui payent. Donc pour ça, on envisage de mettre en place une taxe qui serait payée ex ante par les établissements financiers. C'est le FMI qui travaille là-dessus. Et tous les pays se sont accordés pour dire, très bien, le FMI travaille là-dessus, et puis on échangera une fois qu'il aura une proposition en juin 2010. Pareil, pour savoir quels sont les établissements qui seront plus risqués que d'autres. Un travail est en cours entre la Banque des règlements internationaux, le Conseil de stabilité financière et le FMI. Là aussi, on partage des analyses, on partage le travail, on échange, et on décide d'appliquer en commun les solutions. Donc je crois que ça a vraiment changé, et que c'est de nature à changer la donne. L'autre élément qui est de nature à changer la donne, c'est que effectivement toutes les mesures que j'ai évoquées tout à l'heure vont avoir un coût assez considérable sur le système financier, qui va se traduire par une augmentation de leurs fonds propres, c'est-à-dire mécaniquement une diminution de leur levier, une diminution de leur risque. Et donc à partir du moment où on diminuera leurs risques, les institutions seront forcées à être plus prudentes, et ça aussi c'est de nature à changer la donne. Alors effectivement, si un établissement prend moins de risques, il dégagera sans doute moins de profits, il paiera sans doute moins d'impôts, mais ça, je veux dire, c'est quelque chose dont les leaders du G20 sont conscients. Alors en revanche, est-ce que c'est de nature à éviter une nouvelle crise? Non, parce qu'on ne peut pas avoir un système qui soit fermé à toute crise, et par ailleurs les crises arrivent en général là où on ne les attend pas. Donc on n'évitera pas de nouvelles crises. Qu'on essaye de voir, c'est d'en limiter l'occurrence, de faire en sorte qu'elles arrivent moins souvent et que si elles arrivent, elles soient moins coûteuses et en tout cas moins coûteuses pour la collectivité. D'où l'idée de mettre en place cette taxe qui fasse que s'il y a un problème de cette nature, ce ne soit plus les contribuables qui payent, mais qu'au moins les établissements contribuent ex ante un peu à la résolution de ces problèmes. Donc voilà, je pense qu'effectivement, j'espère, parce que vu le nombre d'heures qu'on y passe, toutes ces évolutions sont de nature à changer la donne, mais on n'évitera pas, on ne peut pas vivre dans un monde où il n'y aura plus de crise.
Merci Sylvie Matera. Alors Mathieu Pigas, votre point de vue.
Oui, je rebondis. Non mais rapidement, sans répéter ce qui a déjà été dit, moi je fais deux ou trois remarques rapides. La première, je partage l'idée évidemment selon laquelle il faut vraiment se garder d'opposer économie financière et économie réelle. Parce que c'est à la fois caricatural et erroné. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que l'un nourrit l'autre et inversement. Si l'économie est une voiture, l'économie réelle c'est le moteur, l'économie financière c'est l'essence, si vous voulez. Donc il faut se garder à tout prix de cette espèce d'opposition facile. Premier point. Deuxième point, ce qui est en cause pour moi, au-delà même de la finance, c'est un système pris dans son ensemble. C'est-à-dire l'évolution profonde ou la mutation profonde du capitalisme connue, telle qu'on la connaît, cette évolution depuis là encore. Elle est 30 ans, c'est-à-dire, je dirais, la fin des années 70 et début des années 80. Pour faire simple, on est passé d'un capitalisme qu'on peut qualifier d'industriel ou de managérial, dans lequel l'entreprise est considérée comme un centre de production et d'emploi. Ce qui compte, c'est la capacité à produire des biens, à inventer de nouveaux biens. C'est l'emploi dans la durée, dans le temps, etc. Un capitalisme dit financier où l'entreprise n'est plus considérée précisément comme un centre de production et d'emploi, mais comme un portefeuille d'activités et une holding. C'est-à-dire, ce qui prime, c'est la maximisation du profit à court terme. De ce point de vue-là, si on veut faire évoluer les choses et corriger les excès, ce qui est fondamental, c'est de corriger les comportements. Et la norme, et l'utilisation de la norme est quelque chose de très important pour faire évoluer les comportements. J'ai parlé tout à l'heure de la fréquence, par exemple, de la publication des comptes. Pourquoi obliger à publier des comptes tous les 6 mois ou tous les 3 mois? Mais même les normes IFRS, le fait de supporter dans les bilans des banques, là pour le coup, les variations des prix de marché, ce qu'on appelle le mark-to-market, la valeur à prix de marché, est-ce que c'est quelque chose de pertinent aujourd'hui et d'utile? Est-ce que c'est pas quelque chose qui, au contraire, amplifie les chocs et les crises? Enfin, c'est typiquement une question à se poser. Troisième point très rapide sur la réglementation. J'ai dit réglementer ne suffit pas, il faut évidemment réguler et corriger les dysfonctionnements macroéconomiques et monétaires mondiaux, et notamment les déséquilibres entre d'un côté les États-Unis et de l'autre et les pays émergents. Mais un mot sur la réglementation. Je pense que s'il y a deux axes majeurs à privilégier, ce sont les suivants. Un, éviter les trous noirs, c'est-à-dire les zones géographiques, par exemple, qui échappent à tout contrôle. Moi, j'en rappelle toujours, il y a plus de flux financiers entre les États-Unis et les Bahamas qu'entre les États-Unis et la Chine, juste pour vous donner une idée. Et éviter les institutions financières qui échappent à tout contrôle. L'exemple typique, c'est les hedge funds, pardon. Et l'illustration la plus dure que moi j'ai connue au ministère des Finances à l'époque, c'était la faillite du hedge fund LTCM qui a été créé par deux prix Nobel d'économie, comme quoi l'économie ne peut pas tout, qui avait, juste pour vous donner ce chiffre en tête, 2 milliards de dollars de capital, mais 5 milliards de dollars de dettes, de positions prises sur les marchés, c'est-à-dire un écart totalement délirant entre leur force de frappe réelle, le capital, et les positions prises et l'endettement supporté. Et donc il faut contraindre les hedge funds à rendre compte de leur position, d'une part, et d'autre part, effectivement, probablement et certainement d'ailleurs, limiter l'effet de levier. Un deuxième et dernier point très important à mon sens, qu'on n'a pas évoqué, même si Édouard Vieilfond l'a mentionné, c'est la protection des déposants et des épargnants. Je vais boucler la boucle, je reviens sur 29. Une des leçons de la crise de 29 quand même, c'est un, il ne faut pas laisser tomber les banques, mais deux, il faut faire très attention à quelque chose, c'est que les dépôts, les vôtres, les nôtres, soient pas mis en danger par les positions prises par les banques sur les marchés financiers, par leurs interventions sur les marchés financiers. Et la conséquence pratique de ça, ça a été une loi américaine qu'on appelait le Glass-Steagall Act, adoptée en 1933, qui imposait une séparation étanche entre d'un côté les banques d'investissement et de l'autre les banques commerciales. Les banques commerciales, c'est celles qui prêtent, pour faire simple, qui recueillent des dépôts et qui prêtent. Et les banques d'investissement, c'est celles qui interviennent sur les marchés. Les États-Unis ont mis fin à cette réglementation en 1999. D'ailleurs, c'est typiquement le pragmatisme américain. Ils l'ont fait pour une raison, qui était autoriser la fusion entre Citi et Travelers, ce qui a donné naissance à cette banque formidable qui est Citigroup. Je vais arrêter le deuxième degré parce que je pense que ça ne passe pas aujourd'hui. Mais est-ce qu'il faut se réjouir du triomphe de ce qu'on appelle les banques universelles? Est-ce qu'il faut se réjouir de la disparition de banques d'investissement qui étaient jugées arrogantes, etc., comme Lehman? Est-ce qu'il faut se réjouir de voir des banques, des grandes banques commerciales comme Bank of America, par exemple, absorber Merrill Lynch? Je ne suis pas sûr, parce que je pense qu'on prépare, on ne prépare pas la prochaine crise, mais on prépare un drame prochain qui sera le fait que les dépôts seront directement touchés par les pertes possibles et l'explosion d'une bulle possible dans le cadre des prises de position des financières des banques. Je ne sais pas si je suis clair. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui confondre à nouveau dans un même ensemble et dans une même institution sans séparation étanche les activités de banques commerciales et de banques d'investissement est quelque chose qui me paraît dangereux.
C'est effectivement une problématique très intéressante sur le modèle de la banque. Est-ce qu'on doit séparer les activités de marché des activités de dépôt? Alors, simplement, juste pour être un peu provocatrice, parce que je n'ai pas la solution à cette question, est-ce qu'on doit remettre un Glass-Steagall Act, hein, ou un truc qui ressemble, c'est que vous remarquerez que les banques françaises ont amorti la crise. Il n'y a pas eu de drame comme en Angleterre et aux États-Unis, parce que c'est le modèle de la banque universelle où les activités de clientèle classique ont servi d'amortisseur aux pertes générées sur les activités de marché. Et donc, je pense que ça mérite effectivement beaucoup de travail de la part des chercheurs en ce moment sur quel est le modèle optimal d'une banque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des inconvénients ou que des avantages dans un modèle ou dans l'autre.
Bien, bah écoutez, merci à nos intervenants. Alors, bien évidemment, selon les règles en usage... Vous avez maintenant la parole. Nous sommes prêts à écouter les questions.
Oui,
non,
il y a
du sang. Attendez, on va vous donner un micro.
C'est mieux.
Oui, je voudrais simplement poser une question auxquelles je n'ai jamais eu vraiment de réponse.
C'était
avant. Avant les années 80, bon, on avait une économie d'endettement. Donc, en gros, les agents qui avaient des capacités de financement étaient mis en relation avec les agents qui avaient un besoin de financement via la banque. Et il y avait une mutualisation des risques par la banque elle-même. Ensuite, on a parlé de la désintermédiation, etc. En fait, on a eu les deux, parce qu'on a à la fois la banque, mais aussi les marchés financiers. Donc, de fait, on a une intermédiation de marché. Et au cœur du problème, c'est quel est le modèle dont l'intermédiation est la moins coûteuse, c'est-à-dire quel est le modèle le plus efficient, quel est le coût d'intermédiation entre un modèle dans lequel l'intermédiation est institutionnelle, elle est bancaire, et un modèle dans lequel l'intermédiation est plutôt de marché et donc financière, sachant que, bien sûr, au départ, le marché peut sembler moins coûteux, mais comme il est volatile, il faut ensuite se protéger des risques, d'où les dérivés, qui ont aussi un coût. Donc, il suffit de voir 2000 milliards de commissions versées, etc. Bref, est-ce que tout le calcul a été fait pour voir quel est le coût d'intermédiation? Après tout, la seule chose qui intéresse le public, c'est d'avoir un processus efficient. Quel est le coût d'intermédiation bancaire? Je n'ai jamais, jamais.
Alors, on va tenter une réponse. On va tenter une réponse.
Si. Vous avez de nombreux travaux d'économistes qui portent là-dessus, mesurer le degré d'efficience. Ils sont faux.
Oui. Enfin,
ah
ils
bon.
Sont pas.
Eh ben alors, oui.
Non,
bon,
non, je veux dire.
Non,
c'est.
Non,
c'est...
Non, mais... C'est,
attendez, pas, vous avez posé une question, oui, vous laissez quand même l'intervenant vous répondre.
Je ne sais pas s'ils sont faux, ils sont certainement critiquables comme toute tentative de modélisation, puisqu'automatiquement c'est réducteur, ça on est bien d'accord. Maintenant, il y a quand même un point sur lequel on s'accorde, et je l'ai dit en introduction, à savoir que ce n'est pas la répartition banque-marché qui est importante pour le financement de la croissance économique, mais c'est l'efficacité du système. Parce que ce qui est important, c'est le coût de financement des investissements.
Ah, okay.
Et ce coût de financement, il peut être relativement faible rien qu'avec un système bancaire ou relativement faible. Alors rien qu'un système de marché financier, c'est pas possible puisque des agents économiques tels que nous, les ménages, n'y ont pas accès. Mais dans un système où le poids des marchés est plus important. Tout dépend aussi du degré de développement, parce que après il y a un problème d'ampleur des financements, enfin des investissements à financer.
Non, non, attendez, on va... Excuse simplement, quand je dis ils sont faux, c'est parce qu'ils n'intégraient pas évidemment complètement le risque systémique que nous connaissons maintenant. Par exemple,
et bon, oui, écoutez, non, on va pas
c'est
faire
le problème
chances,
de la volatilité des marchés. Au cœur des marchés financiers, il y a le problème suivant.
Non, mais...
Autant lorsqu'il y a une offre et une demande sur un marché...
Ouais.
Lorsque le prix augmente, j'en demande moins. Au cœur de la finance, il y a le fait que lorsque le prix d'un actif augmente, la demande augmente. André
bien.
Orléans a très
merci.
Bien vu ça. Et c'est un problème réel au
merci.
Niveau de la finance.
Laissez les intervenants, s'il vous plaît, répondre à vos questions. En fait, pas les demander les réponses. Une question, s'il vous plaît, en fond de la salle, ou d'autre devant. Il y a un micro. Après.
Merci. Il me semble qu'on a oublié quand même des agents importants, c'est les petites entreprises. Hein, donc la finance va-t-elle vraiment changer au niveau des petites entreprises? Est-ce qu'il y a des modifications au niveau de la finance, du financement en fait?
Qui voulait répondre?
Oui, je crois que cette question a un lien très fort avec la précédente, parce que ce qui compte, c'est non seulement le recours à la banque ou au marché, mais ce qui compte, c'est ce à quoi on fait recours. Est-ce qu'on va chercher de la dette ou est-ce qu'on va chercher ce qu'on appelle en bon français de l'equity? Or, et je fais ça pour introduire la réponse à votre question, il est évident que pour une grande entreprise, il y a besoin d'avoir, sauf modèle particulier, il y a besoin d'avoir les deux, dans des proportions qui doivent respecter un certain nombre de règles prudentielles, pas trop de dettes. Il y a des modèles d'entreprise qui nécessitent d'avoir tout en capital. capital. Si je prends la biotech, si je prends des activités très risquées, il faut se financer par du capital. Et à contrario, si je suis une entreprise très stable, avec des cash flows très récurrents, que je suis une entreprise d'infrastructure, ben peut-être que je peux mettre beaucoup de dettes dans mon bilan. Donc ça, c'est un peu une réponse à la première question, mais ça amène une réponse à la seconde. Oui, il y a bien des choses qui sont prévues pour les petites et les moyennes entreprises. L'autorité à laquelle j'appartiens essaie d'apporter sa pierre à cette réflexion, à cette action. Vous savez que le ministère des Finances vient très récemment de relancer un plan PME avec un certain nombre de mesures. Parmi ces mesures, il y a des mesures qui sont accompagnées ou directement de la compétence de l'AMF pour la relance notamment d'Alternext, de façon à promouvoir le retour d'un certain nombre d'entreprises vers ce marché, ou en tout cas l'arrivée de ces entreprises sur le marché. On voit qu'il y a un certain nombre de freins. On sait qu'il y a des entreprises qui auraient un besoin d'avoir accès à ce marché, avoir accès à du capital sous cette forme et pas seulement de la dette, et pas seulement de la dette de banque ou de financement par du private equity. Cette piste est essentielle. Il y a des choses qui sont faites. Il y a des choses qui sont faites en matière réglementaire. Il y a des choses qui sont faites par l'entreprise de marché. Il y a des choses qui sont faites par le régulateur. Je crois qu'un objectif extrêmement important, au-delà des questions un petit peu psychologiques qu'on a abordées rapidement, c'est que pour les PME, et notamment les plus petites d'entre elles, l'accès au marché financier, au marché de capitaux, soit réouvert de façon à ce qu'il n'y ait pas une obligation de passer par les autres moyens de financement qui parfois sont très bien pour un certain nombre d'entreprises mais qui pour certaines d'entre elles ne sont pas adaptées.
Merci. Sur ce point-là, juste les PME, Non, mais très rapidement, sur le point des PME, bien sûr, l'allocation optimale du financement est une question essentielle. Je ne peux pas quand même laisser passer cette question sans évoquer le rôle important qui a été fait par les pouvoirs publics et la Banque de France en matière de médiation du crédit au support des PME. Ça, je pense que, véritablement, la France a été la seule à mettre en place ce dispositif et c'est quelque chose qui a été très efficace et qui est très apprécié.
Merci. Mathieu Pigard, pour le coup.
Moi, je vais ne pas répondre, mais commenter en tant que chef d'entreprise, une petite entreprise en l'occurrence, qui n'est pas Lazare, et que j'ai évoqué tout à l'heure. Moi, je vais vous dire, je suis convaincu de l'importance des PME pour le tissu économique. D'ailleurs, au fond, la différence de vitalité économique entre l'Allemagne et la France explique notamment par ça, pas exclusivement, mais notamment par ça. C'est-à-dire des PME beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus dynamiques en Allemagne qu'en France. Deux, je connais et je sais la difficulté d'accéder au financement. Là encore, c'est d'ailleurs à mon sens une des différences entre l'Allemagne et la France. Et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je ne suis pas sûr que pour les petites entreprises, moins de 50 salariés, moins de 10 salariés, enfin, les petites entités, la question soit celle de l'accès au marché de capitaux, je ne crois pas, c'est plutôt celle de l'accès au financement bancaire. Et à nouveau, on la connaît. Donc tout ce qui peut être fait, je ne porte pour le coup aucune critique, mais je veux dire, tout ce qui peut être fait par les pouvoirs publics pour encourager les banques à prêter plus et mieux aux faveurs des PME est évidemment une bonne chose.
Très bien. J'avais promis une dernière question.
Ma question porte sur les bonus. La France se veut être un pays très vertueux. Benoît Prot, directeur général de la BNP Paribas, a présenté ces jours-ci le nouveau système de rémunération des traders. Pourquoi les autres pays ne suivent-ils pas la France ? Est-ce encore une exception à la française ?
Voilà. Alors, moi, je vais faire une réponse de banquier et je vais laisser, non, mais au contraire, les régulateurs apporter la réponse qui va bien. La réponse de banquier, d'abord, je vais citer quelqu'un pour qui j'ai évidemment beaucoup d'estime, qui est Dominique Strauss-Kahn, en tant que directeur général du Fonds monétaire international, qui a dit il n'y a pas si longtemps, il faut pas se tromper de combat, n'est-ce pas ? Le combat, c'est pas le croupier, c'est le casino. Oui. Donc, n'oubliez jamais ça. Il faut toujours résister à la tentation du bouc émissaire, si vous voulez. Évidemment qu'il faut corriger les excès délirants qui ont été commis. Moi, il y a un chiffre que je cite toujours, 100 milliards de bonus versés par les banques, les grandes banques d'affaires américaines, 2006-2007, alors que 2007 est une année de crise. Pourquoi ? Pour 4 000 milliards de pertes. Donc je dis qu'évidemment, le système était délirant, mais simplement, il ne faut pas réduire tout à cela. Le problème, à nouveau, c'est pas le croupier, c'est le casino. Bon. Première chose. Deuxième chose, il y a des règles qui ont été posées, on les a évoquées tout à l'heure. Sous le ton de la vindicte, inutile à mon sens, mais je les rappelle quand même. C'est des règles qui, me semble-t-il, sont internationales. Je crois qu'elles ont été définies par le G20. Elles sont reprises par la France, je crois pas seulement, mais à nouveau, je vais laisser le régulateur répondre. Elles me semblent saines. C'est étalement des bonus dans le temps, c'est paiement en action, de telle sorte que les opérateurs financiers, notamment, soient bien sensibilisés et responsabilisés au risque qu'ils prennent. Alors la France l'a fait, je crois qu'il y a un texte qui a dû être pris, je ne sais pas bien quel est le niveau de ce texte, si c'est un décret ou un arrêté, mais enfin peu importe, la France l'a fait, je pense que les autres le font.
Oui, tout à fait, mais effectivement je suis d'accord aussi sur le fait que c'est une question qui a été très médiatisée, mais à mon sens c'est pas l'essentiel. Maintenant c'est vrai que c'était très médiatique et il est très difficile d'expliquer les chiffres évoqués par Mathieu Pigas, comment expliquer au moment de la crise que certains continuent à toucher les bonus alors que vraiment les difficultés touchaient le plus grand monde. Donc vraiment c'est un sujet qui, alors on a parlé de l'impact social de la crise, là, je crois que c'est tout à fait emblématique. Et c'est pour cette raison que, bien évidemment, de manière historique, la France était en pointe sur ce sujet. Mais c'est un sujet international, parce que comme tous ces sujets, comme tous les autres, on ne peut plus faire des réglementations nationales. Donc c'est bien évidemment un texte international. Les règles qui ont été fixées par le G20 sont celles qui viennent d'être évoquées, avec en plus l'histoire d'interdire les bonus garantis au-delà d'un an. La France l'a transposé ces mesures-là, pas de manière plus restrictive, mais ces mesures-là, mais de manière contraignante dans un texte. On attend que d'autres pays le fassent. Pour l'instant, ça reste au niveau des déclarations d'intention, mais d'autres pays ont l'intention de le faire. Et en termes de... les normes elles-mêmes sont les mêmes. C'est par nature quelque chose qui doit être international, autrement tous vos traders s'en vont ailleurs. Donc c'est quelque chose qui est naturellement une norme internationale, mais comme tout le reste d'ailleurs, parce que la finance maintenant, comme toutes les activités, d'ailleurs le commerce, tout est internationalisé et c'est bien là notre problème. Nous sommes toujours dans un environnement politique, fiscal, légal qui reste très national et les enjeux sont internationaux. Donc ce qu'on a à faire aujourd'hui, c'est à résoudre ce dilemme.
Juste un mot de Xavier Dufond.
Oui, en complément, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Pour vous donner un exemple précis, c'est vrai que la France, comme souvent, a pris le leadership en prenant les textes, en l'occurrence l'arrêté, la première. Le premier sujet, le premier thème, la première thématique dont se saisit aujourd'hui le Conseil de la stabilité financière pour voir si les normes ont été appliquées, c'est justement les rémunérations. Et ça veut dire qu'il y aura au printemps de l'an prochain un point qui sera fait par le Conseil de stabilité financière pour le G20 pour expliquer qui a fait et qui n'a pas fait ce qui était demandé dans le communiqué du G20 et pour vérifier si tout le monde a pris le type de texte qu'a pris la France récemment.
Bien, bah écoutez, merci à nos intervenants qui, j'espère, vous ont éclairé. Et puis j'espère donc que vous ressortirez avec les éléments qui permettront de fonder vos cours. Alors, les fameux flyers de l'IFP sont à la...